France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Jeux Olympiques de Berlin, des Olympiades en trompe-l'œil. Août 1936, l'Allemagne nazie offre au monde un spectacle impressionnant et une première démonstration de force. Adolf Hitler, chancelier depuis 3 ans, jubile. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, exulte. Ces Jeux ne sont pas qu'une compétition sportive. Ils sont un test, une répétition générale du rôle que l'Allemagne entend jouer sur la scène internationale. Dans les tribunes, les dignitaires, étrangers, fascinés, observent la mise en scène qu'ils ont longtemps hésité à cautionner. Leni Riefenstahl, cinéaste du régime, fige l'image flatteuse d'une Allemagne qui se donne un exemple au monde, moderne, pacifique, triomphante. On connaît la suite, 5 ans d'horreur à venir. Et puis surtout ce trouble fait de Jesse Owens, coureur noir, qui écrase tout, les records, la propagande et l'idéologie nazie. L'Allemagne se rêve invincible, c'est un athlète noir qui entre dans l'histoire. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Abgral, journaliste à la direction des sports de Radio France, co-auteur avec François Tomaseau du livre 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, aux éditions Helvic. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Florence de Talouette. Coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes. Réalisation Charles de Silla.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Le ciel est lourd à Berlin en cet après-midi du 1er août 1936. Dans l'immense stade de la capitale allemande, 100 000 spectateurs retiennent leur souffle. L'excitation est palpable, électrique. Les fanfares se font entendre, la cloche monumentale résonne, les drapeaux des nations se figent, et Hitler apparaît. Flanqué de ses ministres et des éminences du Comité international olympique, il descend lentement le grand escalier de la porte de Marathon. Une vague se lève des gradins. Les spectateurs se dressent d'un seul mouvement, bras tendus vers le ciel. Le stade résonne d'un même rugissement, Heil Hitler. Puis l'orchestre attaque les premières notes solennelles de la marche d'hommage de Wagner, l'idole d'Hitler. L'écho des cuivres, alors, emplit l'air. Triomphant, jouissant de façon ostentatoire de son pouvoir, comme d'habitude, et plus encore ce jour-là, Hitler traverse la pelouse pour atteindre sa loge. Il surplombe maintenant le stade à la manière des souverains antiques, avec la complicité d'une partie de son peuple qu'il a lui-même creusé sa tombe. Ce jour-là, les fleurs du mal exhalent un parfum de fête et de force. C'est bien le but de la manœuvre. Alors Hitler vient se poster devant son micro, comme lors des grands rassemblements de son parti, mais cette fois, ce n'est pas la diarrhée verbale habituelle, non. Il n'a droit qu'à une phrase.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Le défilé commence. La Grèce ouvre la marche, comme le veut la tradition. Puis, une à une, les nations défilent en ordre alphabétique. Entre la Finlande et la Grande-Bretagne, la France fait une entrée remarquée. Béret, blazer impeccable, pantalon d'un blanc éclatant, cravate tricolore. Les 201 athlètes avancent avec une élégance toute française. Fiers, droits, ils semblent vouloir compenser leur réputation de turbulents indisciplinés. Et alors qu'ils approchent de la tribune officielle, d'un même mouvement précis et majestueux, les bras droits de nos sportifs français se lèvent à l'horizontale, à hauteur d'épaule. Le geste est fluide, presque chorégraphié. Et il ressemble à s'y méprendre au salut nazi. Il ressemble seulement. Mais l'effet crée un certain malaise. Pendant une fraction de seconde, le public se tait avant qu'une explosion de clameurs enthousiastes ne parcourt les gradins. Le stade se lève alors en une onde vibrante. La France, vainqueur d'hier, ennemi toujours, est acclamée d'une seule voix. Noël Van der Noot, le plus jeune barreur de l'aviron des Jeux, un enfant, se tient avec un sérieux d'adulte. Et lui aussi tend le bras avec force. 50 ans plus tard, au micro de Fabrice Abgral, sur France Inter, il se souvient.
Quand on est arrivé devant la tribune, bien entendu, on a fait le salut olympique, qui se faisait depuis toujours d'ailleurs. Ça s'appelait à l'époque le salut de Joinville. On a tourné la tête pour regarder la tribune, puis on a tendu le bras. Oh là là, une explosion, là là, c'était... Le gouvernement français, surtout un gouvernement de gauche en plus, qui aurait pu s'éviter de nous le faire faire, en nous disant que le salut nazi ressemble étrangement à ce salut. À tel point que même Hitler était surpris. Il a compris qu'il y avait une méprise de la part des gens qui croyaient qu'on faisait le salut hitlérien. C'est pas ça, mais eux, ils pensaient que... Oui, bref.
Et enfin, l'acte manqué est total. Et la maladresse, l'inconscience des Français d'autant plus flagrante que les autres délégations, elles, optent pour des gestes plus neutres. Les Australiens retirent leur Panama en approchant de la tribune officielle. Les Américains avancent, chapeau posé sur leur cœur. Même les Belges soulèvent simplement leur canotier. Tandis que les Britanniques, classe, se contentent de tourner brièvement la tête vers les tribunes. Hitler la prendra à ses dépens pendant la guerre. On ne la fait pas au Royaume-Uni. Il y a des citadelles imprenables. La cérémonie culmine avec une nuée de pigeons qui s'envolent comme autant de promesses de paix. Pourtant, le stade est couvert de drapeaux à la croix gammée et la sécurité de l'événement est assurée par l'ensemble de l'appareil militaro-policier de l'État hitlérien. Cette engeance criminelle, SA, SS, Gestapo, jeunesse hitlérienne. Mais le spectacle, à cet instant, est total. La grande messe olympique aux couleurs nazies se déploie avec une sonalité impeccable. Le régime nazi est un spécialiste du genre. Tout le monde a en tête les immenses rassemblements type Nuremberg. L'ordre et la force, toujours. Pendant quelques instants, on en oublierait presque les débats houleux et les passions brûlantes qui ont précédé ces Jeux olympiques. Alors, comment en est-on arrivé là? Le 16 mai 1931, la République de Weimar, nom sous lequel on définit alors la démocratie allemande, subit de plein fouet le krach de 1929. Pourtant, c'est bien l'Allemagne qui est désignée pour accueillir les Jeux. En vérité, le CIO veut frapper fort. Ce sera un message de réconciliation internationale. Une tentative de refermer les plaies béantes laissées par la Grande Guerre, 13 ans auparavant. Après tout, Berlin aurait dû organiser les Jeux en 1916, annulés par le conflit. Jusque-là, rien d'anormal. Au contraire, la décision du CIO est plutôt pertinente. Mais personne à l'époque ne peut imaginer que l'Allemagne s'apprête à sombrer dans la dictature.
Hitler est incontournable. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier. C'est l'apothéose pour les militants du NSDAP, le Parti National Socialiste, qui le soir même défile devant leur chef. Oubliez les complots, les putschs manqués des débuts, les nazis arrivent légalement au pouvoir. Certes, ces SA qui défilent ont bien semé la terreur à chaque élection, mais Hitler a également su passer des accords, nouer des intrigues avec d'autres forces politiques.
En accédant au pouvoir, Hitler hérite donc des Jeux. Mais le nouveau chancelier, loin d'être enthousiaste, cet homme au physique malingre ne sait ni nager, ni faire du vélo, n'a aucun intérêt pour le sport. Pour lui, les JO ne sont qu'une frivolité bourgeoise. Dépenser des millions pour un tel événement, absurde. Mais autour de lui, on en perçoit bien l'enjeu. À commencer par Theodor Lewald, président du comité d'organisation allemand. L'homme l'a bien compris, ces jeux-là, au-delà de la simple célébration sportive, peuvent devenir un outil de propagande redoutable. Reste à convaincre Hitler. Lors d'une entrevue cruciale, accompagnée de l'exalté Joseph Goebbels, Theodor Lewald joue sa carte. Il promet au Führer que les Jeux Olympiques peuvent devenir une vitrine éblouissante pour le Troisième Reich. Bon, d'accord, mais à une condition. Ces Jeux devront être les plus spectaculaires que le monde ait jamais vus. Le chantier démarre, il est titanesque. Le budget initial, fixé à 2 600 000 marks, explose. La facture atteint en vérité les 36 millions. Mais qu'importe, l'objectif est clair, faire des Jeux l'apothéose du régime nazi. Cette démesure ne répond pas seulement à une ambition sportive et architecturale, elle s'inscrit aussi dans la stratégie économique du Reich. Les Jeux doivent servir l'industrie, l'emploi. Alors le directeur du chantier claironne.
Pour donner du travail et du pain au maximum de chômeurs, nous effectuons les travaux avec aussi peu de machines que possible afin de soutenir le travail manuel d'une manière presque anti-économique.
Une pierre deux coups. Hitler façonne une Allemagne triomphante aux yeux du monde et devient le garant de la prospérité économique nationale. D'ailleurs, tous les sports tombent sous la coupe du parti nazi. Dans chaque ville, des infrastructures sportives modernes sont construites. Les jeunesses hitlériennes prennent en main l'éducation des jeunes, mêlant programmes sportifs obligatoires et endoctrinement idéologique implacable. Cela dit, Hitler n'invente rien. Le sport a souvent été un instrument des dictatures. Ainsi, en Allemagne, les clubs traditionnels disparaissent, dissous ou absorbés dans des structures nazifiées. Et les athlètes d'élite, eux, profitent des avantages dignes du professionnalisme. Dans le même temps, l'inquiétude gagne la scène internationale. Des voix s'élèvent. L'Allemagne est-elle en train de franchir la ligne rouge en professionnalisant ses athlètes, défiant ainsi les règles olympiques qui réservent la compétition aux seuls amateurs? Et surtout, prendre part à ces Jeux, n'est-ce pas cautionner l'idéologie nazie? Henri Bailly-Latour, président du CIO, s'alarme. Le 3 mai 1933, depuis son bureau de la Villa Monrepos à Lausanne, il s'exprime sans détour dans une lettre qu'il adresse aux autorités allemandes.
Il est indispensable que M. Hitler soit préalablement mis au courant que les Jeux sont donnés à une ville et non à un pays, qu'ils n'ont aucun caractère politique, racique, national, confessionnel. Au cas où ces conditions ne recevraient pas l'approbation du chancelier, il serait préférable que la ville de Berlin retire sa candidature.
En réponse, le responsable des affaires sportives d'Hitler explique qu'il est inconcevable qu'un chef d'État représentant 65 millions de personnes soit tenu de confirmer par écrit une déclaration qu'il a déjà faite verbalement. Tous les athlètes, quelle que soit leur origine, seront traités sur un pied d'égalité. Cette déclaration convainc Henri Bailly-Latour. Cela n'empêche pas, quelques mois plus tard, Hitler de promulguer les lois de Nuremberg.
En même temps qu'il menace à l'extérieur, Hitler décide d'étendre son système de terreur à l'intérieur. Le 11 août, les SS organisent des opérations antisémites dans toute l'Allemagne. Mais l'intimidation ne suffit pas. Il faut mettre les Juifs au banc de la société. Le Führer profite du rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg pour annoncer sa politique en la matière. Le 15 septembre, il y présente deux lois. La première concerne le droit de citoyenneté, la seconde la protection du sang allemand. Les lois de Nuremberg vont faire des Juifs des citoyens de deuxième catégorie.
Réduits au statut de paria, les athlètes juifs sont bannis des clubs. Et dans le cas très rare où ils parviennent à accéder aux clubs allemands, ils sont systématiquement écartés des épreuves éliminatoires, sous des prétextes fallacieux, évidemment. Une exception tout de même, Hélène Mayer, escrimeuse de talent, considérée comme demi-juive selon les lois raciales, intègre l'équipe du Reich. Mais son rôle est clair, elle n'est qu'une caution, un alibi, destiné à masquer la réalité des discriminations aux yeux du monde, un moyen de donner des gages à l'opinion internationale. Mais personne n'est dupe, et à l'étranger, les esprits s'échauffent. Comment concilier l'esprit de fraternité des Jeux avec un régime qui bafoue si ouvertement ses principes? Aux États-Unis, organisations juives, clubs sportifs et syndicats appellent au boycott. Les manifestations se multiplient, tandis que des éditoriaux enflammés réclament une position ferme. En France, les débats sont tout aussi vifs. Et le contexte qui se tend inexorablement avec la remilitarisation de la Rhénanie n'arrange rien, bien sûr. Comme le montre ce reportage des actualités françaises.
Enhardi par ses succès intérieurs, Hitler déchire le traité de Locarno signé par son pays en 1925. L'Allemagne acceptait alors librement de ne pas militariser la Rhénanie, zone tampon garantissant la sécurité de la France et de la Belgique. Mais début mars, des éléments de l'armée allemande pénètrent en Rhénanie. La Reichswehr, dont les régiments forment très vite plusieurs divisions, entre dans les villes de Düsseldorf et de Cologne. Hitler propose un traité de non-agression à la France. Cinq jours plus tard, au palais St. James à Londres, a lieu une réunion extraordinaire du Conseil de la Société des Nations. Les diplomates essaient de trouver une réponse au coup de force allemand en Rhénanie. Ribbentrop, ambassadeur du Reich en Grande-Bretagne, est sommé de s'expliquer. Et la SDN se borne à une condamnation de l'Allemagne.
Le coup de force est total et le geste calculé. En violant délibérément les accords internationaux, Hitler mise sur l'inaction des démocraties européennes. Ce qu'il vérifiera deux ans plus tard avec les accords de Munich. À Paris toutefois, l'écho de ce coup de force fait exploser les tensions et se cristallise à l'Assemblée nationale sur une question qui divise profondément la classe politique. Faut-il accorder la subvention pour permettre aux athlètes français de participer aux JO de Berlin? Quand certains prônent la prudence diplomatique, d'autres défendent les idéaux universels du sport, tandis que les voix les plus combatives dénoncent une mascarade orchestrée par Hitler. Florimond Bont, membre du Parti communiste par exemple, déclare « Aller à Berlin, c'est être complice. La cloche olympique retentira comme un lugubre tocsin qui sonne l'appel aux armes. On ne peut pas s'associer à cette caricature des Jeux dont les juifs, les démocrates, les communistes vont être brutalement écartés. » Parole lucide, visionnaire, forte, auquel le député François Pietri, membre de la droite modérée, rétorque avec un pragmatisme glaçant. N'y a-t-il pas d'autres pays qui usent à l'égard de certaines catégories de citoyens de procédés à peu près analogues ? Croyez-vous, par exemple, qu'aux États-Unis, les Noirs soient si facilement accueillis dans les clubs sportifs ? À l'heure des votes, seul Pierre Mendès France, jeune député radical socialiste, s'oppose frontalement à l'attribution des fonds. La majorité de la Chambre, elle, et malgré le malaise ambiant, suit la ligne de prudence dictée par Léon Blum, récemment arrivé au pouvoir avec le Front populaire. Le socialiste préfère éviter d'affronter seul et de front ce voisin encombrant qu'est l'Allemagne. Encombrant et aux réactions imprévisibles. Alors pour calmer son aile gauche et ne pas donner l'impression d'une capitulation morale, une partie des subventions est également attribuée au contre-jeu de Barcelone. Initiative antifasciste, jeu populaire. Prévu à partir du 19 juillet 1936, ils n'auront jamais lieu. Le 18, un jour avant, le coup d'état franquiste emporte tout sur son passage. Le fascisme a le vent en poupe à travers l'Europe, la machine est en marche. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les JO de Berlin en 1936.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Le 25 juillet, sur le sol allemand, les premiers athlètes commencent à arriver. Parmi eux, un jeune sprinteur noir américain dont les racines plongent dans les champs de coton de l'Alabama, Jesse Owens. Adolf Dassler, futur fondateur d'Adidas, lui fait essayer une paire de chaussures révolutionnaires qui pourraient bien le propulser vers la victoire. Et pendant ce temps, en France, les derniers détails sont réglés dans l'urgence. Billets de train à payer, intendance organisée et costumes pour la cérémonie d'ouverture commandés à hâte.
Cette année nous apporte heureusement un 2 août plus pacifique. Et si de jeunes Français partent pour Berlin, ce n'est que pour de loyaux combats sur le seul terrain sportif. 2 août 1914, mobilisation pour la guerre. 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix.
À la gare de l'Est à Paris, l'effervescence est palpable. Les athlètes, sacs sur l'épaule et visages concentrés, montent à bord du train en direction de Berlin. Sur le quai, on échange poignées de main, accolades et regards pleins d'espoir. Pour beaucoup, ce voyage ressemble à un rêve. Oui, une chance unique de se mesurer au reste du monde, de briller de montrer que la France a du souffle. Mais derrière les sourires pointe un soupçon d'inquiétude tout de même. Ce n'est pas seulement une question de médaille. Il s'agit de savoir si la France peut rivaliser avec des Allemands surentraînés, galvanisés par l'ambition de leur régime. L'hebdomadaire Le Sport passe de main en main. On peut y lire comme une mise en garde. Toute notre nation sera jugée à travers cette poignée d'hommes qui porteront nos couleurs. Noël Van Der Noten, le plus jeune médaillé olympique, revient sur la portée symbolique de ce voyage.
Je peux vous dire que par rapport à certains pays, nous, Français, étions beaucoup plus sensibles que d'autres au fait de se rendre en Allemagne, car, de près ou de loin, tous ceux qui étaient dans la délégation avaient été concernés et touchés par la guerre de 14-18. Moi, j'étais dans une école où 30% des instituteurs étaient handicapés ou estropiés. Quand on est gamin, ce genre d'image marque à vie. L'Allemagne faisait peur, et l'arrivée au pouvoir de Hitler n'a rien arrangé. On était inquiets.
La frontière franco-allemande traversée, les regards scrutent ce pays qui fascine autant qu'il inquiète. Mais à part les bannières frappées de la croix gammée, rien ne semble particulièrement alarmant. Non, les drapeaux olympiques flottent joyeusement dans chaque gare traversée. Les slogans antisémites et les journaux xénophobes ont disparu. Les livres censurés sont réapparus, comme par magie. Voilà un pays fréquentable. L'objectif des Allemands est clair. Éblouir, séduire, faire taire les critiques. Le quotidien allemand Der Angriff résume. Nous devons être plus charmants que les Parisiens, meilleurs vivants que les Viennois, plus cosmopolites que les Londoniens, plus pratiques que les New-Yorkais. Assis dans le train, à côté de Noël Van Der Noten, il y a Étienne Dalloux, le recordman de France junior du 1500 mètres. Bien plus tard, au micro de TF1, il se souvient de son arrivée à Berlin.
Alors je suis arrivé, j'étais ahuri, mais complètement ahuri. Ça, je m'en souviens. Je comprenais pas, je voyais des choses étonnantes, tous ces jeunes gens en uniforme. On avait mis à la disposition de notre groupe un jeune garçon qui avait mon âge, qui était jeunesse hitlérienne, et avec qui la conversation était très agréable. Il parlait pas mal français, il parlait un peu anglais, on arrivait à se comprendre. Il était très sympathique, pas bête. Et de temps en temps, tout d'un coup, il sortait un couplet qui me laissait, mais vraiment, je ne comprenais pas.
Face à l'apparente cordialité des nazis, André-François Poncet, ambassadeur de France à Berlin, est loin d'être dupe. Il écrit son inquiétude au ministère des Affaires étrangères d'ailleurs. Et il lui dit « Vous savez, nous avons affaire à une Allemagne qui joue un jeu très serré, qui veut témoigner d'un esprit pacifique. Les marques d'estime dont nous sommes l'objet font partie de la propagande. Dans un mois, les étrangers auront repris le chemin de leur patrie et ils chanteront les louanges du Troisième Reich. Or, ils ignoreront tout de la tyrannie de la Gestapo, de la partialité monstrueuse, de la justice, de l'étouffement de toute opinion. Derrière les façades immaculées, en effet, la réalité est tout autre. Les indésirables sont méthodiquement effacés. Prostituées, gitans, opposants politiques, mendiants et autres individus considérés comme des parasites de la société sont enfermés dans des camps d'internement. L'ordre nazi repose déjà et intrinsèquement sur la répression, sur l'exclusion. Pendant ce temps, les délégations s'installent dans le village olympique, conçu comme un modèle de cité idéal à une quinzaine de kilomètres de Berlin. Les bâtiments modernes, entourés de jardins, de forêts et de lacs superbes, offrent une vision idyllique d'un monde où règne harmonie et confort. On y croise des athlètes en plein entraînement, des journalistes fascinés par la propreté des installations, et même des curieux autorisés à visiter ce lieu exceptionnel, témoin de l'hospitalité allemande. Oh, le joli pays de Cocagne que voilà! Même le vieux baron Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes, a fait le déplacement. Sa voix, enregistrée à la RTS, résonne comme une déclaration de foi.
J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Dès aujourd'hui, je veux remercier le gouvernement et le peuple allemand pour l'effort dépensé en l'honneur de la 11e Olympiade.
Berlin est devenu un décor de cinéma pour la propagande nazie. Au centre de ce projet, il y a Leni Riefenstahl. La cinéaste se voit confier une mission précise et délicate, projeter une image idéalisée du Reich sans qu'on y voie de la propagande. Mais c'est bien le ministère de cette même propagande qui tire les ficelles. Joseph Goebbels accorde à Riefenstahl des moyens colossaux. Une soixantaine de caméramens, des grues, des ballons pour les prises aériennes, des caméras subaquatiques pour les épreuves de natation, des tranchées pour obtenir des angles de vue uniques. Tout est minutieusement orchestré. C'est la fameuse efficacité allemande qu'on verra au service des pires causes, plus tard. Dans un documentaire de TF1, la cinéaste, protégée d'Hitler, se défend d'avoir réalisé une œuvre au service du régime nazi.
Mes collègues étaient jaloux. Ils pensaient que j'étais la protégée d'Hitler. Ça n'était pas ça. Je n'ai pas eu tellement de contact avec
Hitler.
Il admirait mes films. Je n'étais pas la Pompadour du Troisième Reich. Je n'étais pas l'ange des années 30. J'étais seulement un metteur en scène.
Et sans doute une très bonne réalisatrice qui fait des choix. Leni Riefenstahl filme une Allemagne qui brille au lancer de marteau, de poids et de javelot, des disciplines de guerre, de quoi enthousiasmer Hitler. Le film Les Dieux du Stade, un très bon film d'ailleurs, n'est rien d'autre qui donne à l'Allemagne triomphante, qui se hisse en tête du classement des médailles, et évidemment, battant tous les records, avec pas moins de 89 breloques, or, argent et bronze. Mais un grain de sable vient enrayer cette mécanique bien huilée. Au cœur de cette mise en scène millimétrée de la grandeur aryenne, un nom s'élève comme un défi magistral au projet nazi, Jesse Owens. Ce sprinteur noir américain fissure à lui seul la façade soigneusement construite par le Reich. Il devient l'incarnation d'un autre idéal, inattendu et incontrôlable. Des années plus tard, de retour dans le stade de Berlin, il raconte.
Imaginez 120 000 personnes tout autour qui vous regardent. Vous pensez à ce que vous allez faire et tout à coup, c'est comme si vous étiez seul. Vous faites le vide. Il n'y a plus que les sept autres potentiels vainqueurs. Chacun veut gagner. Et la personne qui gagnera remportera le titre du coureur le plus rapide de l'humanité. Et vous savez que tout ce travail, celui des neuf dernières années, va se jouer en 10 secondes. Alors, j'attends les ordres des starters. Ils sont à 10 pas derrière moi. Je vais à mes marques et je me souviens. J'ai baissé la tête. J'ai regardé le sol, j'étais prêt, et j'ai entendu
le coup de feu du départ déchire l'air. En 10 secondes et 3 centièmes, Jesse Owens vole vers la ligne d'arrivée, laissant ses adversaires loin derrière lui. La foule, d'abord saisie, explose en applaudissements. Les gradins s'enflamment. Mais dans la tribune officielle, Adolf Hitler se lève brusquement, incapable de supporter cette humiliation. D'autant qu'Owens n'en reste pas là. Sur le 200 mètres, il écrase la concurrence avec une aisance presque insolente. Mais c'est au saut en longueur que la légende s'écrit. Face à Lutz Lang, l'archétype de l'athlète aryen, le duel est intense, haletant. Les deux hommes sont à égalité. L'Allemand bénéficie du bruyant soutien du public du stade olympique. Puis vient l'instant décisif. L'ultime saut d'Owens. Il s'élance, un bond magistral, 8 mètres 6. Le public est stupéfait. Record olympique, un exploit qui tiendra 24 ans. Et là, au cœur de cette performance inouïe, une image bouleverse l'assistance. Lutz Lang, l'Allemand, va féliciter Jesse Owens. Leur accolade, fraternelle et sincère, offre un instant de grâce, une image en totale contradiction avec l'idéologie du régime. Le 9 août, Owens enfonce le clou en s'imposant avec ses coéquipiers américains sur le relais du 4x100 mètres, pulvérisant un nouveau record du monde. En 4 jours, l'athlète américain accomplit l'impossible. 4 médailles d'or, 4 victoires retentissantes.
Un jour où je ne courais pas, notre comité a demandé si je pouvais m'asseoir dans la loge aux côtés de Hitler pour observer le spectacle. Sa réponse, évidemment, fut non. Ça me faisait rire. Nous étions là pour détruire le mythe de la suprématie arrière. Quand vous pensez à tout ce que Hitler représentait, nous, les auxiliaires noirs de l'équipe américaine, repêchés dans les fonds de tiroir de l'Amérique, pour composer une équipe capable de tenir tête au surhomme de Hitler, nous étions là.
Par la seule force de sa présence, Owens se dresse contre le racisme. Ses victoires, immortalisées par la caméra de Riefenstahl, portent un coup symbolique aux efforts du régime nazi pour imposer sa vision du monde, sa supériorité raciale, réelle ou supposée. Mais de retour aux États-Unis, c'est un comble. Owens n'est pas reçu par le président Roosevelt. Une amère réalité qui révèle les contradictions d'une Amérique encore profondément ségrégationniste. Pour les Français, le bilan des Jeux est plus terne. Classée cinquième, l'équipe olympique ne récolte que 19 médailles. Les responsables de la délégation, mal préparés, oublient même de convier leurs champions à monter sur le podium. Ainsi, Noël Van der Notte reçoit ses deux médailles de bronze sur un coin de table, à la fin d'un dîner, comme de simples souvenirs de voyage. Il est temps de rentrer. Jacques Godet, rédacteur en chef de l'Auto, l'ancêtre de l'équipe, écrit « Nous quittons Berlin, bouleversés et inquiets. On s'est servi du sport, on ne l'a pas servi. Les Jeux sont devenus un moyen, une vitrine pour un régime et un peuple soumis à son maître. » On est loin de la cécité du baron de Coubertin. Les Jeux de la 11e Olympiade s'achèvent le 16 août avec un discours du comte Henri Bellet-Latour, président de CIO.
Après avoir offert aux chanceliers du Reich et au peuple allemand, aux autorités de la ville de Berlin et aux organisateurs des Jeux, le tribut de notre profonde gratitude, nous proclamons la clôture des concours de la 11e Olympiade, et selon la tradition, nous convions la jeunesse de tous les pays à s'assembler dans 4 ans à Tokyo pour y célébrer avec nous les Jeux de la 12e Olympiade.
Mais Tokyo n'aura pas lieu. Et tandis que le rideau tombe sur les Jeux, les ambitions du Reich grandissent. Et ce sont les ténèbres qui vont bientôt fondre sur le monde, des ténèbres noires et vert de gris. Le lendemain de la cérémonie de clôture, le corps de Wolfgang Fürstner, commandant adjoint du village olympique, est retrouvé sans vie. L'homme qui a consacré 2 ans à bâtir ce village modèle disparaît dans des circonstances pour le moins troubles. La propagande nazie parle d'un accident survenu en nettoyant son revolver. Mais Fürstner portait en lui une tache indélébile aux yeux du régime, des origines juives. Quelques jours plus tard, Hitler double la durée des services militaires obligatoires. Bientôt, ce ne seront plus des athlètes qui défileront en rang serré, mais des soldats. La flamme olympique s'est éteinte. D'autres feux sont sur le point de s'allumer.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Berlin 1936, dont nous parlons avec notre invité Fabrice Abgral. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à la direction des sports de Radio France, vous êtes le co-auteur avec François Tomaseau du livre 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, aux éditions Alvic. Je crois qu'ils sont issus, tous les propos de ce livre, et même ce livre est issu directement, Fabrice, de votre mémoire de thèse, je ne me trompe pas.
Mémoire de maîtrise, oui, de maîtrise à Nanterre,
d'accord.
Par Edis.
Sur les Jeux de Berlin, donc.
Sur les Jeux de Berlin, c'était le titre d'ailleurs, et ce mémoire de maîtrise est né de cette photo hallucinante, quand on fait des études d'histoire et qu'on aime le sport, quand on voit des Français défiler le bras tendu devant Hitler, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Comment les Français ont pu en arriver là, quoi ?
Bon, on va leur rendre justice quand même. Ce n'était pas le salut nazi, c'est le salut de Joinville. C'est quoi le salut de Joinville ? C'est le peloton de Joinville, non ?
Alors le salut de Joinville a fait son apparition aux Jeux Olympiques en 1920, à Anvers. Et ça faisait référence, en effet, aux athlètes qui s'entraînaient au bataillon de Joinville. Et c'est devenu donc le salut olympique. Alors, il faut donner les précisions. Le salut olympique, c'est bras tendus sur le côté avec la tête légèrement inclinée.
D'accord.
Alors que le salut nazi, lui, ses bras tendus devant, avec la, la tête dans le prolongement du bras, ouais. Avec les yeux fixes. Mmh. Donc ça n'a rien à voir avec mais évidemment...
Mais ça ressemble tellement, c'est fâcheux, mais ça n'a rien à voir.
C'est terrible, il y a une méprise terrible. Imaginez dans un stade de 100 000 spectateurs, imaginez le spectateur qui se trouve tout en haut, qui voit les Français défiler avec le bras tendu. Bah, le public a répondu. Par le salut nazi. Hitler, étonné, a répondu par le salut nazi. André-François Poncet, l'ambassadeur qui était à côté d'Hitler, s'est pris la tête dans les mains en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?»
Bien sûr.
C'était la panique à bord, vraiment. Mais alors, et puis rendez-vous compte, 18 ans après la fin de la Première Guerre, des Français acclamés à Berlin.
Oui, on l'a dit, parce que c'est important.
C'est dingue. Donc, ça a été le pays le plus acclamé, le plus applaudi, derrière l'Autriche, l'Italie, et évidemment derrière l'Allemagne. Mais bon, évidemment, ce n'était pas un hommage au nazisme et encore moins à Hitler. Il y a eu méprise totale, comme l'a expliqué Noël van der Noot, mais ce n'est pas superficiel. Ce n'est superficiel qu'en apparence, en fait, parce que ça traduit, en fait, la méconnaissance totale que les Français avaient à l'époque de ce qui se passait en Allemagne. Mmh. Guy Lapébi, cycliste, qui a eu 3 médailles, dont 2 en or, aux Jeux de Berlin en 1936, je l'ai rencontré en 2005, il y a 20 ans, à Bordeaux, et il m'a même précisé, il m'a même avoué, quand il est arrivé à Berlin, il ne connaissait même pas le salut nazi. Il ne savait pas ce que c'était. Ouais. Donc rendez-vous compte...
Il part de loin.
Oui, donc il partait de très très loin, mais c'était la preuve que les Français, enfin en tout cas les Français moyens, ne savaient pas ce qui se passait en Allemagne. Mmh.
Alors on a passé 3 minutes là-dessus, mais c'était important. C'était important de lever le malentendu.
Parce qu'on les a beaucoup critiqués après, quand ils sont revenus en France.
Bien sûr. Alors que devait être concrètement maintenant ces contre-jeux organisés à Barcelone ? L'idée est intéressante. Qu'est-ce qu'on sait de cela ? Sauf que ça n'a pas pu avoir lieu, évidemment, avec l'arrivée de Franco.
Les contre-jeux, c'était organisé par ceux qui étaient en faveur du boycott. Mmh. Alors, essentiellement des communistes, mais aussi des personnes liées à la communauté juive, puisqu'ils étaient exclus, évidemment. Ils se sentaient exclus. Et donc, ils ont organisé ces contre-jeux à Barcelone, qui devaient avoir lieu le 19 juillet, donc c'était avant les Jeux de Berlin, qui n'auront finalement jamais lieu, puisque Franco déclenche le coup d'État le 18, la veille. Et c'est la guerre civile en Espagne, c'est le chaos à Barcelone, et les Jeux et les contre-jeux n'auront jamais lieu. Alors ces contre-jeux devaient rassembler des sportifs liés au Parti communiste, essentiellement, mais aussi à la communauté juive, et les premiers combattants, d'ailleurs, de la guerre civile en Espagne. Ce sont aussi des athlètes qui devaient participer, en effet, à ces contre-jeux.
Les premières brigades internationales,
et d'ailleurs, il y a eu un financement, parce qu'au départ, en fait, le budget pour les Jeux de Berlin était de 1 800 000 francs. Mmh. D'accord ? Léon Blum les a coupés en deux. 1 million pour Berlin et 800 000 francs pour les contre-jeux de Barcelone, pour les financer aussi, pour envoyer des Français là-bas. Et malheureusement, ces contre-jeux n'ont jamais eu lieu, mais c'était évidemment pour critiquer Hitler, pour ne pas cautionner ce qui se passait en Allemagne, et puis pour lutter contre le nazisme et pour montrer que tout le monde n'était pas d'accord.
Alors, on ne va pas faire du chrony, mais si ces Jeux avaient existé, ça aurait changé probablement le visage des JO de Berlin.
Forcément.
Alors, on va écouter Noël van der Noot. On va écouter ce qu'il en pense, ce qu'il a ressenti avec ces Jeux, puis on en reparle ensuite.
Ouais. Et il y avait la cérémonie olympique protocolaire, on remettait les médailles sur un podium qui était sur le stade olympique. Alors, ils jouaient à chaque fois, c'était pénible, hein. Tout le monde debout. Les Allemands, le bras tendu, fallait voir cette marée, c'était impressionnant. Nous, tout petits, au milieu de tout ça, là-dedans, et ils jouaient l'hymne national allemand, et ensuite l'hymne des nazis. Ça, c'est interdit, normalement, on n'a pas le droit. Mais ils l'ont fait à chaque compétition. Et c'était long, et puis c'était impressionnant. Presque angoissant, j'allais le dire.
Voilà, l'hymne national allemand, c'est le Deutschlandlied, et le chant du parti nazi, c'est le Hauptfessellied. Là, c'est effectivement assez choquant.
Bien sûr que c'est choquant, parce que normalement, on n'a pas le droit.
Ben oui.
Normalement, on n'a pas le droit, c'est le Comité international olympique l'a bien précisé, mais Hitler en a fait encore, évidemment, un outil de propagande de ces Jeux olympiques, et ça passait aussi par là. Donc voilà, alors c'est vrai que la communauté internationale n'a pas réagi, mais comme elle n'a pas réagi pour la remilitarisation de la Rhénanie...
Ni à Munich, d'ailleurs.
Et, oui, non, mais ça préfigure...
Ça préfigure Munich.
Ça préfigure, en fait, ce qui va se passer à Munich en 1938, donc les accords de Munich. Donc, la communauté internationale a été un petit peu lâche. Mais en fait, c'était quoi le problème? C'était que personne ne voulait se froisser avec Adolf Hitler. Personne. Mmh. Personne, parce qu'ils avaient peur d'Adolf Hitler. Ils ne voulaient surtout pas le contrarier. Ils ont préféré fermer les yeux, donc, face à cette Allemagne qu'ils ont vue pacifiée et pacifique pendant une quinzaine de jours, puisque c'est vrai qu'on ne reconnaissait pas l'Allemagne, vous l'avez très bien dit.
Bien sûr, c'était maquillé, tout était maquillé.
Tout était maquillé, tout était maquillé, évidemment.
Et les médias, alors, dont on peut attendre qu'ils aient plus d'acuité que nous, hein. Comment ils se sont laissés berner aussi?
Ils étaient divisés, il y avait d'un côté les journaux qu'on va qualifier de droite, et puis il y avait les journaux comme l'Humanité, du Parti communiste, et puis le Sport, hein, puisque c'était un hebdomadaire lié aussi au Parti communiste. Alors eux, évidemment, ils étaient contre les Jeux, ils étaient pour le boycott, ils étaient en faveur des contre-jeux de Barcelone. Alors évidemment, c'était une énorme vitrine pour l'Allemagne, ces jeux de Berlin, mais eux, ils s'intéressaient surtout à l'arrière-boutique. Oui. Forcément, à l'arrière-boutique, c'était les lois racistes de Nuremberg, c'était les camps de concentration, les premiers camps de concentration, c'était les lois antisémites, et puis évidemment la remilitarisation de la Rhénanie. Alors ils ont mis l'accent là-dessus pour leur dire attention, on est en train de se faire manipuler, il faut faire très attention, cette Allemagne est belliqueuse, il faut faire attention. Mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que tout le monde y a été, même si les Français ont été les derniers à accepter l'invitation du CNO allemand. Parce qu'il faut se souvenir aussi, il faut savoir que ce n'est pas un pays qui invite. Ce sont les comités nationaux olympiques. Et là, c'était le comité national olympique allemand qui invitait. Et la France a été le dernier à accepter l'invitation, parce que les débats ont été particulièrement houleux. Hein. La France a donc été le dernier pays à accepter cette invitation. Vous l'avez dit, Pierre Mendès France a été le seul à voter contre. Les communistes et les socialistes se sont abstenus. Évidemment, la droite a voté en faveur des Jeux. Mais bon, pour Léon Blum, c'était compliqué. Hein, parce que pour Léon Blum, avant d'arriver au pouvoir, avant d'être président du Conseil, il était contre les Jeux.
Ah oui.
Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, là, il était partagé entre ses convictions réelles et évidemment la réalité diplomatique. Donc ça a été extrêmement compliqué pour lui. Il s'est appuyé beaucoup sur André-François Poncet pour prendre sa décision. André-François Poncet, donc ambassadeur de France à Berlin. Alors il s'est laissé un petit peu séduire. Alors évidemment, pas par conviction, mais surtout pour voir ce que Hitler voulait faire de ces Jeux Olympiques. Et évidemment, il a très vite dit à Léon Blum, attention, il est en train d'en faire une opération de propagande incroyable et il est en train de préparer la guerre. Il est en train, parce que le sport, c'est quoi? C'est une confrontation, c'est des duels, c'est des combats.
C'est un rapport de force.
C'est des rapports de force. Et il est en train de préparer la guerre. Donc, faire du sport, c'est la guerre avec d'autres moyens, en fait, en quelque sorte.
Et Hitler est l'homme des rapports de force. Alors, ce débat, bien que les périls n'étaient pas les mêmes, hein, faut toujours faire attention avec les comparaisons, mais ça me rappelle quand même les débats en France, notamment avant la Coupe du Monde 1978 en Argentine.
Oui, pareil. Hein.
Il y avait, bon, mais c'est vrai que les périls n'étaient pas tout à fait les mêmes.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Fabrice Abgral, nous en étions restés à Léon Blum, président du Conseil au moment des faits. On va rester avec Léon Blum, parce que évidemment, la décision qu'il prend d'envoyer les Français au JO de Berlin est difficile.
De peur de cautionner,
voilà.
Évidemment.
Donc il faut compenser. Donc il faut compenser.
En fait, il avait un vrai problème. Donc il avait peur d'être incompris des Français parce qu'il venait de créer, avec le Front Populaire, le premier secrétariat d'État au sport.
Ah, oui.
Le ministre des Sports, en quelque sorte.
C'est ça. Léo Lagrange.
Et c'est Léo Lagrange qui était donc le secrétaire d'État. Donc il était quelque part obligé d'envoyer des sportifs, parce que comment faire comprendre aux Français qu'il veut développer la pratique du sport en France et qu'il n'envoie pas les meilleurs sportifs français dans le plus grand événement, les Jeux Olympiques. Donc c'était très compliqué aussi pour lui de prendre cette décision de boycotter. Bon, et après, évidemment, il y avait aussi la remilitarisation de la Rhénanie. Les Français ont été incapables de réagir. Donc pourquoi boycotter les Jeux de Berlin alors qu'ils étaient incapables de réagir à la remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936? Donc c'était 2-3 mois avant. Donc c'était insupportable pour lui, évidemment, de pouvoir prendre une décision de boycotter. Et puis bon, les Français, évidemment, veulent la paix avec l'Allemagne. Hein, parce que ils sont encore traumatisés par le souvenir de la Première Guerre mondiale, et puis évidemment, il ne voulait pas cautionner évidemment le régime nazi, mais il a été contraint d'envoyer des athlètes pour ne pas froisser Hitler, pour ne pas contrarier.
Et pour ne pas rentrer dans une logique de guerre.
Voilà, exactement.
Alors, on n'a pas abordé les JO d'hiver qui ont eu lieu 6 mois auparavant à Garmisch-Partenkirchen, mais déjà Hitler avait demandé à ce qu'on prenne soin des médias. Ça a été une répétition générale.
Ah bah, c'était clairement une répétition générale, oui. C'était, vous savez, les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, c'était les Jeux d'hiver donc, 15 jours ou 3 semaines après, ils remilitarisent la Rhénanie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est en effet servi de cet événement pour voir un petit peu comment allaient réagir les pays étrangers, pour savoir aussi un petit peu comment le peuple allemand allait réagir. Mais là encore, c'était une opération de propagande incroyable pour lui, pour savoir justement, pour asseoir un petit peu sa popularité, pour asseoir évidemment sa politique, et puis bah, pour voir aussi, pour mesurer déjà les forces en présence. Et ça a été clairement, mais vraiment clairement, une répétition générale. Et ils se sont aperçus que après, les Jeux Olympiques de Berlin sont arrivés dans la foulée. Et avec le triomphe que l'on sait.
Alors, le film Les Dieux du Stade a mauvaise réputation parce que les JO de Berlin, parce qu'on était persuadé que Leni Riefenstahl était vraiment à la solde d'Hitler. C'est un beau film, déjà.
C'est un film merveilleux.
Bien sûr, c'est un beau film.
Esthétiquement parlant.
Oui, j'entends bien. Alors, vous avez entendu, évidemment, vous connaissez cette archive de Leni Riefenstahl qui se défend d'avoir été la disciple d'Hitler.
C'était
Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
L'égérie d'Hitler. C'était l'égérie d'Hitler.
Mais l'égérie, ça va pas forcément dans les deux sens.
Ouais, mais bon, c'était... non, mais c'était un instrument... Ouais, Hitler s'est servi d'elle pour évidemment exalter le corps. On n'a jamais aussi bien filmé, en fait, le sport qu'avec Leni Riefenstahl. C'est incroyable, parce qu'elle a 250 heures à dérocher, 2 ans de montage... Le film est incroyable, il est très très beau. Alors évidemment, il faut prendre du recul quand on le regarde, parce qu'évidemment... Mais c'est vrai que c'est un outil de propagande, ça reste un outil de propagande quand on le regarde. Mais attention, elle a quand même filmé Jesse Owens, elle a quand même filmé des athlètes noirs, des athlètes étrangers, il n'y a pas que les Allemands. Ouais. Mais c'est vrai que les Allemands sont filmés de façon incroyable, et c'est très très beau. J'invite évidemment
les
auditeurs de le voir, oui, mais... Oui. Avec le recul nécessaire.
Alors, Fabrice, vous êtes un homme de radio, donc il reste 1 minute.
Oui.
Je compte sur vous.
Allez.
Bon, les Français, le sport français, dans quel état le sport français à cette époque ?
Le sport, c'est essentiellement un divertissement. Alors évidemment, on aime la boxe en France à cette époque-là, on aime la lutte, l'haltérophilie, mais évidemment, on se souvient aussi du tennis avec évidemment les mousquetaires, on reste dans le souvenir des mousquetaires, Borotra, Brugnon, Lacoste et Cochet. Mais le sport en France à cette époque-là, c'est le vélo, c'est le cyclisme. Parce que les héros, ce sont les coureurs du Tour de France.
Les dieux de la route.
Les dieux de la route, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un vélo pour 4 habitants en France. C'était incroyable, il y a 9 millions de vélos. 9 millions de vélos, c'était le... Et évidemment, les Français ont été particulièrement performants à Berlin, d'ailleurs, à vélo, dans le cyclisme.
La France, un pays qui roule.
Un pays qui roule.
Merci
Mais
infiniment.
Mais pas beaucoup de médailles.
Mais pas beaucoup de médailles.
19.
Merci infiniment, Fabrice Abgral. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les JO de Berlin en 1936. C'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.